Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et bienvenue dans Géopolitique que vous pouvez également écouter en podcast. Coup d'envoi lundi prochain du second mandat de Donald Trump, le 47e président des États-Unis, prendra les rênes d'une économie qui se porte plutôt bien comparativement à la zone euro, la crise énergétique avec l'augmentation des prix du gaz ayant plutôt épargné les États-Unis. À une semaine de son départ, lundi 13 janvier au département d'État, Joe Biden prononçait un discours dressant un bilan de son action dans le monde et se couvrant de félicitations. Il a dit laisser à la nouvelle administration des cartes très fortes à jouer alors que le retour de Donald Trump est un échec personnel pour Joe Biden. L'accord sur un cessez-le-feu à Gaza et la libération d'otages est certainement l'une de ses cartes. Il avait été proposé par Joe Biden il y a 8 mois. La pression mise par Donald Trump depuis son élection et l'affaiblissement du Hamas auront fait le reste. Donald Trump va-t-il renforcer le leadership américain? Quelle issue au conflit en Ukraine? Doit-on s'attendre à la confrontation du siècle entre la Chine et les États-Unis? Qu'est-ce qui s'impose à l'Europe avec l'arrivée de Donald Trump? Pour répondre à toutes ces questions, nos invités en studio avec moi, Célia Belin, directrice du bureau parisien de l'ECFR, l'European Council on Foreign Relations, experte des questions américaines et transatlantiques et auteur des Démocrates en Amérique aux éditions Fayard. Bonjour.
Bonjour.
Laurence Nardon, responsable du programme Amérique de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, auteur de Géopolitique de la puissance américaine aux presses universitaires de France et productrice du podcast hebdomadaire sur la politique américaine appelé New Deal. Bonjour Laurence Nardon.
Bonjour.
Stephen Dreyfus qui est avec nous depuis les États-Unis, avocat américain, ancien procureur à New York, ancien président de la Chambre de commerce franco-américaine et ancien président de l'Union internationale des avocats. Bonjour.
Bonjour.
Et en studio également, Axel Kroos, ancien rédacteur en chef de l'International Herald Tribune à Paris et ancien correspondant de Business Week à Paris, Moscou et Washington. Bonjour.
Hello, bonjour.
Donald Trump a placé au cœur de sa campagne l'idée qu'il était le candidat de la paix sur deux fronts majeurs, l'Ukraine et le Proche-Orient. Il veut renouer avec son projet central qui est de développer les accords d'Abraham, normalisant les relations entre Israël et les pays arabes, la cible prioritaire étant l'Arabie Saoudite. Il ne veut pas, Donald Trump, être encombré à la Maison-Blanche par le dossier de Gaza. Est-ce qu'il y a eu, et que sait-on, avec l'accord donc intervenu entre Israël et le Hamas sur un cessez-le-feu à Gaza et la libération d'otages, que sait-on de la synergie qui a pu exister entre les deux administrations, l'une sortante et l'autre entrante? Est-ce qu'il y a eu, Stephen Dreyfus, une sorte de front commun entre les équipes Biden et Trump? Et je peux rappeler que chacun revendique la paternité de cet accord.
Oui, c'était exceptionnel parce que c'est à peu près le même accord qu'avait proposé Joe Biden au printemps. Mm. Et donc, la question qui se pose ici, c'est pourquoi on a pris 8 mois pour arriver à l'accord. Et c'est effectivement le marteau de l'arrivée de Donald Trump qui était derrière cette réussite. Et des deux côtés politiques ici, tout le monde est d'accord que c'était ça qui a fait la différence. Et effectivement, les représentants de Trump et de Biden pour le Moyen-Orient ont travaillé ensemble et ont participé aux mêmes entretiens avec Netanyahou comme avec le Hamas. Et ils ont fait front commun, ce qui est un peu exceptionnel étant donné les relations exécrables entre Trump et Biden. C'est une première.
Célia Belin et Laurence Nardon, vous partagez, Célia Belin?
Oui, je pense que Joe Biden a pu bénéficier en fait de l'arrivée de Donald Trump aux affaires, dans le sens où ça a mis un coup de pied à la fourmilière et ça a forcé globalement les Israéliens, Netanyahou en particulier, à avancer sur un accord, puisque Donald Trump a dit « je veux que la question soit réglée » ou que en tout cas on ait avancé sur les otages avant mon arrivée au pouvoir. Et donc là, on a eu quand même une confluence d'intérêts entre d'une part Donald Trump qui veut arriver en ayant déjà un win, une victoire dans la poche, en disant voilà, vous voyez, j'ai dit quelque chose et c'est arrivé très vite derrière. Mais de l'autre côté, pour l'administration Biden, c'est quand même une bonne chose, juste avant de partir, de dire voilà, on a pu, en travaillant très sérieusement, arriver à un accord et il pourra se retirer de manière historique en disant que quelque chose a avancé dans les derniers mois. Donc je pense que c'était un peu win-win là, et que du coup, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Laurence Nardon.
Oui, c'est ce win-win entre ces deux administrations que tout oppose est d'autant plus étonnant si on se rappelle ce qui s'était passé en 80 avec l'affaire des otages iraniens. Entre l'administration Carter et l'administration Reagan, ou au contraire, l'administration Reagan avait, enfin qui n'était pas encore investie, avait travaillé en sous-main, les archives le montrent aujourd'hui, pour rendre impossible un accord qui aurait été un cadeau de départ à l'administration Carter. Et c'est dès son arrivée, au contraire, alors de manière bien séparée avec l'administration précédente, que l'administration Reagan avait annoncé la libération des otages, un énorme win pour Reagan en début de mandat. Et donc, enfin, c'est étonnant de voir que cette fois-ci se passe de manière si différente et presque, enfin, comme a dit Célia, de manière si consensuelle.
Axel Kraus, vous partagez tout ce qui s'est dit, vous voulez rajouter quelque chose? La question qui se pose aussi, c'est de savoir qu'est-ce que Trump a pu mettre dans la balance.
Il était très marginal. Il était the last to come to the party. Il était le dernier à la fête. C'était Joe Biden, comme il a dit dans sa conférence de presse, président Biden. C'est lui, Biden, qui a proposé le plan au mois de mai. C'était négocié par toutes les équipes autour de Biden et pas de Trump. Et c'était vers la fin que, parce que Joe Biden est un type de fair play, il voulait que cette transition se fasse dans les meilleures méthodes possibles. Et évidemment, Trump a vu une occasion, un peu comme sa présence à Notre-Dame. Aux dernières minutes, il arrive et voilà, il est là, en train de proclamer la victoire, mais en réalité, il a joué un rôle marginal mais important, surtout vis-à-vis Netanyahu, parce que Netanyahu était en difficulté avec son propre cabinet et ses collaborateurs. Et la présence de Trump avait deux choses intéressantes. D'abord, la pression sur Netanyahu en disant « Bibi, il faut que tu fasses cet accord ». Et deuxièmement, il a menacé Hamas avant d'une furie d'action s'il ne participe pas dans cette négociation pour arriver rapidement à un accord. C'est donc un rôle importante mais minimale. C'était Joe Biden quand même qui et son administration qui doit quand même crier victoire.
Mais les relations entre Joe Biden et le Premier ministre israélien, Stephen Dreyfus, elles n'étaient pas faciles. Il y a une meilleure entente entre Donald Trump et Benjamin Netanyahu, d'après vous ?
Ouais, c'est intéressant parce que le menace qu'a fait Trump en disant que, et je ne sais pas exactement comment dire en français, que « all hell will break loose » s'il n'y a pas un accord avant qu'il arrive au pouvoir.
Alors, je ne sais pas comment...
L'enfer sur Terre.
L'enfer sur Terre, ouais.
Il y a des alternatives plus grossières. On ne va pas les dire.
Et donc, il n'a jamais eu à préciser exactement ce qu'il voulait dire. Et on se pose la question ici, notamment... C'est chez la droite traditionnelle représentée par le Wall Street Journal ce matin, on pose la question, mais qu'est-ce que ça voulait dire? Est-ce qu'on s'attendait à ce qu'il fasse une invasion, une participation sur le terrain des troupes américaines? Moi, je ne crois pas effectivement que ce soit ça, mais c'est plutôt son discours à Netanyahu a dit, vous n'avez pas de meilleur ami que moi. Et si je deviens fâché avec vous, je saurai réduire le soutien. Ça va vous compliquer la vie. Et je crois que c'est ça qui a fait bouger Netanyahu et qui l'a fait ruser les pressions à sa droite par Smotrich et ses amis d'extrême droite dans le cabinet de guerre israélien, qui sont toujours contre. Et donc, ce n'est pas chose faite, hein. C'est un accord avec plusieurs phases, et on va voir quel sera le rythme, notamment de la libération des otages, parce qu'il n'est pas clair que ça va se faire immédiatement, mais je crois que la négo de Trump et Biden a fait à ce que deux des trois otages vivants de nationalité américaine seront libérés les premiers. Et c'est très important ici que ce soit le fait, mais pour le reste, il faut attendre.
Donc bien sûr, cet accord ne veut pas dire que le dossier Gaza sort de la, du bureau ovale de la Maison Blanche. Et évidemment, il y a plusieurs phases, ce sera long, on l'a dit, et Donald Trump devra continuer de gérer ce dossier, donc préparé très en amont par Joe Biden, puisque c'est le même accord que celui qui avait été présenté en mai dernier.
Géopolitique. Marie-France Chatin.
Dans la liste des choses qu'a fait Donald Trump un petit peu à la dernière minute, j'ai noté la Cuba avec la sortie de la liste des pays qui financent le terrorisme. Ça, c'est un élément. En tout cas, j'ai vu l'information sur CNN. Au-delà de ça, j'aimerais que l'on se penche un tout petit peu sur ce que l'on sait de la manière dont la politique étrangère va évoluer avec Donald Trump. Célia Belin.
Elle va beaucoup évoluer avec Donald Trump, puisqu'en fait, on est dans deux traditions de politique étrangère absolument opposées. Joe Biden, on a dit, c'était le dernier des transatlantistes, le dernier, peut-être, en tout cas, quelqu'un qui a fait toute sa carrière au moment de la guerre froide, puis de la sortie de la guerre froide et de la transition vers un monde nouveau, de davantage de compétition, et qui s'est adapté progressivement à ce monde, mais toujours en gardant pour croyance, pour guide fondamental, que les États-Unis devaient avoir une politique de leadership dans le monde, de leadership éclairé, soit à travers le prisme démocratie contre autocratie, ou encore celui de dire que autour de la guerre en Ukraine, ils allaient être le garant de la sécurité de l'Europe. De l'autre côté, on a Donald Trump qui pratique une politique étrangère du 19e siècle, qui est un mélange de nationalisme, d'impérialisme, d'unilatéralisme, mais également adapté à ce 21e siècle avec une sorte de croyance dans des sphères d'influence, donc une sorte de respect pour la sphère d'influence chinoise, russe et donc aussi américaine. Et là-dedans, aucune appétence pour le système d'alliance qui est né du post-Deuxième Guerre mondiale puis du post-Guerre froide. Aucune croyance dans la valeur de l'OTAN, des partenaires européen, pas de croyance non plus dans un ordre international libéral. Tous ces concepts-là sont étrangers à Donald Trump. Donc c'est vraiment, ce sont deux conceptions de l'Amérique et de sa place dans le monde qui se font face, et la transition va être rude.
Alors des États-Unis, finalement, si on devait un tout petit peu décoder ce que vous venez de dire, Célia Belin, des États-Unis imperméables à la notion d'ordre mondial, et un pays qui construit sa propre voie. Je ne sais pas, Laurence Nardon, si vous voulez réagir à cela ou...
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que Célia vient de dire. C'est une vision du monde très obésienne, enfin comme Thomas Hobbes, c'est-à-dire chacun pour soi, la guerre de tous contre tous. Les alliances ne servent à rien ou sont même néfastes. En fait, la vision de Trump des alliances comme l'OTAN, etc., c'est qu'en fait, les États-Unis se sont fait avoir depuis des décennies, parce qu'en fait, c'est eux qui payaient tout, c'est eux qui étaient les leaders, et donc qui
avaient... Une sorte de victimisation.
Peut-être, oui. Enfin, en tout cas, les alliances se faisaient au profit des alliés et au détriment des États-Unis, leader des alliances et donc responsable de tout. Donc il y a ce côté-là. Et puis aussi, c'est aussi la réfutation de l'exceptionnalisme américain. C'est-à-dire que pour quelqu'un comme Trump, et donc à la différence de Biden, comme ça a été dit, les États-Unis n'ont pas de responsabilité morale dans le monde. Ils n'ont pas à défendre les droits de l'homme ou la démocratie là où elle est attaquée. Et d'ailleurs,
grande différence avec ses prédécesseurs.
Évidemment, y compris les républicains depuis 1945 et peut-être même avant. Et du coup, c'est bien là, on va en parler, j'en suis sûre, que la cause ukrainienne va peut-être... être lâché par Washington.
Alors justement, on y vient. Axel Kruse, peut-être d'abord vous souhaitez rajouter quelque chose.
J'ai une autre vision sur la question. Il faut d'abord savoir, à mon avis, que Joe Biden et Trump sort des traditions tout à fait différentes. Mais avec Joe Biden, on sait où on était. Mm. Ses engagements vis-à-vis des alliances, et, le multinationalisme, etc. Mais sur Trump, il faut dire qu'il y a énormément de points d'interrogation. Pendant la campagne, ses collaborateurs nous ont expliqué à la presse très très souvent qu'il ne faut pas croire à tout ce qu'il dit, dans le sens qu'il va faire des choses qu'il a dit. Et pour l'instant, nous sommes en pleine spéculation intéressante, analyse intéressante, mais loin de la réalité qui n'est pas encore connue. Mmh. On ne sait pas ce qu'il va faire. Et de plusieurs exemples qu'on peut citer où il a déjà reculé devant le Congrès, le Sénat en particulier, pour l'histoire du budget, où il a laissé tomber ce qu'il avait dit avant. Le problème de la Mexique, par exemple, changer le nom dans le Golfe du Mexique, il n'a absolument pas répondu à la réponse du président de la Mexique, parce qu'il ne supporte pas les critiques, surtout venant des femmes. Et il est capable de changer. Je reviens à mon idée principale que Trump voit le gouvernement américain comme une grande entreprise familiale et privée. Et c'est lui le boss. Il ne regarde pas beaucoup des chiffres, par exemple, sur l'économie. La seule chose qui compte pour lui, quand il regarde le monde entier, et surtout sur un angle économique, le monde, il regarde une seule chose, c'est la bourse. C'est la bourse qui l'intéresse seulement. Il n'est pas un homme, disons, un intellectuel. Il n'écoute pas souvent ses collaborateurs. Bolton, qui était son conseiller, qu'il a d'ailleurs traité plutôt comme un imbécile.
Pour son premier mandat.
Dans le premier mandat. Mais il vire des gens autour de lui. Et donc, j'ai dit qu'en référence à Musk, c'est Musk, par exemple, qui a donné quelques indications vis-à-vis Poutine, qui apparemment, il a des bons rapports, peut-être pas directement avec Poutine, mais ses collaborateurs, je parle de Musk. La même chose avec la Chine.
Intérêts économiques, surtout.
C'est sur un plan économique et multinational, parce que cette entreprise qui est la base de sa mentalité, vous avez que de regarder le film L'Apprenti pour comprendre que Trump fonctionne en intérêt économique et géopolitique dans un deuxième temps.
Alors, on parle... Oui, Stephen Dreyfus.
Si je pouvais juste rajouter qu'il y a... Il ne faut pas négliger le fait qu'il y a un courant de nouvel isolationnisme chez Trump et surtout à la droite du Parti républicain. Ceux qui sont anti-guerre, et notamment anti-guerre au continu, normalement, le Parti républicain traditionnel était pro-défense, pro-intervention. Mais là, il y a un rejet chez les MAGA, le camp de Trump, il y a un rejet des républicains traditionnels comme Dick Cheney qui ont présidé des guerres à l'étranger, y compris avec les troupes américaines. Alors que là, il y a une grosse pression de la droite du Parti républicain contre l'interventionnisme. Et ce serait intéressant de voir comment ça va se développer pendant sa présidence.
Attendez, on ne peut pas dire Trump est isolationniste. Vous savez que de voir ce qu'il a déjà dit sur le Groenland, sur le Canada, j'ai déjà évoqué le Mexique, etc. C'est seulement c'est un regard sur le monde qui est tout à fait différent de tous ses prédécesseurs. C'est un homme qui voit le monde sur une autre optique et donc ce n'est pas isolationniste.
Militairement, c'est-à-dire que lui ne veut pas faire des aventures militaires avec des troupes américaines, des boots on the ground à l'étranger, comme l'ont fait d'autres. Et donc il parle beaucoup. Et il y a cet impérialisme dont on a parlé tout à l'heure, évidemment, mais avec les mots, avec la force de l'économie américaine, avec la puissance américaine, mais pas avec des troupes. Et ce serait une différence à suivre.
Alors, il parle beaucoup, on n'a pas le temps de développer, mais ce sera peut-être intéressant de redémarrer la deuxième partie de l'émission sur tout ce que Donald Trump a pu dire à propos du Mexique, le golfe du Mexique, le canal de Panama, le Groenland, le Canada. Savoir si finalement il l'aurait dit une fois à la Maison Blanche. Là, c'était dans la période de transition. On vous retrouve tous, Stephen Dreyfus, Axel Kroos, Célia Belin et Laurence Nardon après le journal. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Regard sur la politique étrangère américaine, nous retrouvons nos invités, Laurence Nardon, responsable du programme Amérique de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, auteur de Géopolitique de la puissance américaine aux presses universitaires de France et productrice du podcast hebdomadaire sur la politique américaine appelé New Deal. Célia Belin, directrice du bureau parisien de l'ECFR, le European Council on Foreign Relations, expert des questions américaines et transatlantiques et auteur de Des démocrates en Amérique aux éditions Fayard. Axel Kroos, ancien rédacteur en chef de l'International Herald Tribune à Paris et ancien correspondant de Business Week à Paris, Moscou et Washington. Et par téléphone depuis les États-Unis, Stephen Dreyfus, avocat américain, ancien procureur à New York, ancien président de la Chambre de commerce franco-américaine à New York et ancien président de l'Union internationale des avocats. On va parler de l'Ukraine tout de suite, mais avant cela, je l'évoquais en fin de première partie de l'émission, est-ce que Donald Trump aurait été aussi... je ne sais pas comment dire, mais en tout cas extravagant sur sa politique étrangère à venir, ou en tout cas avec ses menaces de changer le golfe du Mexique en golfe américain, d'annexer le canal de Panama parce qu'il trouve que les bateaux américains sont trop taxés, le Groenland, le Canada. Est-ce qu'il aurait dit tout cela une fois à la Maison Blanche, Célia Belin?
Écoutez, je crois que Donald Trump s'est jamais muselé, il s'est jamais empêché de dire quoi que ce soit sur quoi que ce soit. Peut-être à son arrivée, en fait, en 2017, il a eu un moment de gravité. Il l'avait dit lui-même, où il a pris la mesure du poste qu'il avait devant lui, mais très rapidement, le naturel a pris le dessus. On a vu cette campagne qui, pour lui, a duré pratiquement 4 ans. Dès 2020, il était déjà en campagne. Il ne s'est rien interdit sur la politique intérieure comme sur la politique étrangère. Donc là, pendant la transition, il a parlé d'annexer le Canada, le Groenland et le canal de Panama. Et ça ne pose manifestement pas de problème. Donc j'attends la même chose une fois en poste.
Alors en 2016, on peut rappeler que pour Donald Trump, ça avait été une surprise, que cette élection, que finalement il était mal préparé. Et là, cette fois-ci, il est plutôt bien préparé. J'en viens à la question de l'Ukraine. Quelle solution, d'après vous, Donald Trump va-t-il apporter à l'Ukraine? Est-ce qu'on pourrait voir les Ukrainiens être contraints d'accepter des choses qu'ils n'auraient jamais acceptées de Joe Biden, Laurence Nardon?
Oui, c'est effectivement la menace. C'est l'une des choses, sur lesquelles Trump n'a quasiment jamais changé de discours pendant sa campagne. Et Dieu sait qu'il a changé de discours sur plein de sujets, comme par exemple l'avortement ou d'autres. Mais sur l'Ukraine, il a toujours dit « si je suis élu, nous cesserons ce soutien coûteux en matériel et en financement à l'Ukraine, et donc il faudra mettre en route des négociations ». Donc oui, on peut craindre que ça se passe comme ça. Ceci dit, depuis plusieurs semaines, on voit Volodymyr Zelensky mener une politique de rapprochement avec Donald Trump qui est, à mon avis, assez maligne. En tout cas, elle fait sens, parce qu'en fait, lors de la réouverture de Notre-Dame et à d'autres occasions, les deux hommes ont eu l'occasion de discuter directement. Et pour Volodymyr Zelensky, c'était évidemment l'occasion de faire valoir son point de vue, d'essayer de créer un lien personnel avec Trump, éventuellement même de créer une obligation morale chez Trump de défendre l'Ukraine. Alors, on sait que les obligations morales pour Trump, ça marche pas. Mais enfin, je pense que Zelensky n'avait pas le choix que de foncer et d'essayer de faire valoir son point de vue pour éviter à tout prix ce que vous disiez, c'est-à-dire une paix négociée au profit des Russes sans prendre en compte un minimum de garanties et de droits pour les Ukrainiens.
Stephen Dreyfus, est-ce que justement sur ces questions de l'Ukraine et de ce que va faire Trump, vous avez des informations que nous n'avons pas?
Je sais que vous savez tous beaucoup de choses. Mais là, il y a deux indicatifs qui sont intéressants. D'abord, il y avait les témoignages de Marco Rubio, qui sera le secrétaire d'État, devant le Sénat, où il a dit qu'il faut absolument qu'il y ait la paix en Ukraine, et pour ça, il faut que les deux côtés fassent des concessions. Première chose. Deuxième chose, c'était très subtil, que j'ai appris ce matin, c'est que le camp Trump aurait, je parle au conditionnel, exigé que Mike Johnson, le speaker, le président de la Chambre, enlève de la tête d'une commission clé sur l'Ukraine un faucon de la Chambre, un représentant de l'Ohio qui était extrêmement fort dans sa défense de l'Ukraine, et on lui a privé de la présidence de cette commission. Alors, l'intéressé a dit que Johnson lui aurait dit que c'était aux ordres de Mar-a-Lago, c'était la citation. Mar-a-Lago,
c'était le QG de Donald Trump.
Oui, ouais. Mais ce sont des petits signes qui indiquent qu'il y aura progressivement un abandon du soutien aussi fort qu'avant de l'Ukraine. Mais Trump fait attention parce qu'il y a dans le Congrès un camp de républicains extrêmement fort en soutien à l'Ukraine. Et comme ils n'ont que, pendant quelques mois, une majorité d'un siège dans la Chambre sur les 435 et de 3 sièges dans le Sénat, il ne peut pas se permettre d'aliéner ces gens-là. Donc il va procéder d'une manière, alors au moins pour Trump, d'une manière plutôt prudente, c'est le moins qu'on puisse dire, alors que quand il aura plus de force, quand il aura, sa majorité va accroître de quelques sièges avec les élections spéciales qui vont se faire ce printemps, peut-être il sera plus franc dans son exigence que l'Ukraine accepte, notamment la cession de territoire dont Biden ne voulait pas entendre.
En tout cas, donc, ce que disait Stephen Dreyfus, les Républicains ne sont pas complètement unis sur la question ukrainienne. Axel Kroes, vous souhaitez ajouter quelque chose? Après ça,
oui,
j'aimerais bien qu'on
je dirais que jusqu'à ces déclarations, surtout sur le Groenland et le Canada, Donald Trump était encore en campagne présidentielle. Il a utilisé des phrases qu'on a entendues 1000 fois pendant la campagne. Et comment il va être au moment qu'il est dans la chaise, le fauteuil du président dans le Oval Office à Washington, ça reste à savoir. Mais on a une chose que je trouve assez encourageante, c'est que le Washington Post a publié une sorte de notation des membres de son cabinet, parce que les gens qu'il va avoir autour de lui sont, à mon avis, beaucoup plus sérieux et beaucoup plus intéressants que l'équipe qu'il avait pendant le premier mandat.
En 2016.
Le Washington Post a noté 19 plutôt positif sur les choix, 19 sur des vingtaines, et que 2 ou 3 que le Post a dit sont inacceptables. Surtout Robert Kennedy Jr. et aussi le candidat pour le ministre de la Défense, qui sont carrément des gens à exclure. C'est-à-dire, tout dépend pour l'Ukraine et la politique étrangère en général, d'une large mesure va dépendre effectivement en partie sur le Sénat et le Congrès, mais aussi ses collaborateurs les plus proches. Et je crois que c'est tout à fait possible qu'il va être plutôt intelligent, parce que Trump n'est pas un idiot. On peut dire qu'il est tout flamboyant, qu'il sort des phrases à tous les coups. Comme président, avec la responsabilité qu'il a, il joue le jeu plus sérieusement, comme on a vu avec l'histoire de Gaza et le camp. Un dernier mot, je crois qu'il y a déjà la base de négociation. Henry Kissinger avait déjà dit une partie, ou a prévu une partie d'un accord possible, c'est qu'il faut que l'Ukraine soit prête de céder territoire, le Donbass et les 20% couramment occupés par les Russes. Mais il y a autre chose. Si, c'est-à-dire, il est transactionnel, n'est-ce pas? Nous savons, Trump. Et il a un certain rapport avec Poutine, et il comprend très bien, je crois, qu'il faut donner à Poutine quelque chose qui va permettre à Poutine de crier victoire. Alors c'est quoi? Il faut que Zelensky accepte de retarder une adhésion à l'OTAN, et peut-être pour 30 ou 40 ans. Peut-être qu'il va l'accepter, cette affaire de céder le territoire, et que c'est tout à fait possible que Poutine va accepter. Si Poutine peut dire à son peuple que j'ai réussi. Et on ne sait pas, mais ça, c'est la base possible d'un accord territoire, des garanties et éventuellement les possibilités de trouver une solution pour le développement ou plutôt le redéveloppement de l'Ukraine après.
En tout cas, on a en mémoire tout de même les déclarations de Donald Trump à Poutine au moment de la Syrie et le départ de Bachar el-Assad. Il a dit très clairement à Vladimir Poutine, eh ben, vous avez perdu. Alors là, effectivement, peut-être modifier le langage et les actions. J'aimerais qu'on parle de l'Europe, dont on peut signaler qu'elle est finalement le seul continent au monde à craindre ce retour de Donald Trump, Célia Belin. Alors, on a vu Elon Musk faire beaucoup d'ingérences en Europe. Quel est son objectif, déstabiliser ou pas déstabiliser l'Europe? Et quelles sont finalement les forces de levier dont dispose l'Europe vis-à-vis de Donald Trump, Célia Belin?
Alors, le CFR, notre think tank, a publié un rapport cette semaine qui est une grande enquête d'opinion qui a été menée en Europe et dans huit pays au-delà de l'Europe et qui montre bien qu'en effet, l'Europe est isolée dans sa crainte d'un retour de Donald Trump aux affaires. En réalité, le reste du monde, on a mené cette enquête en Russie, en Chine, en Inde, au Brésil ou encore en Arabie Saoudite, est beaucoup plus pragmatique, y compris chez les rivaux, voire les adversaires des États-Unis et disent soit voient dans Donald Trump un faiseur de paix potentiellement à cause de son discours sur Israël ou son discours sur l'Ukraine, mais aussi un président transactionnel, un homme fort avec lequel on peut travailler. Et c'est là où on en revient un peu à cette ambiguïté pour les Européens, c'est que les Européens se sont construits dans un monde où ils imaginaient un monde où l'ordre international était dirigé ou co-dirigé avec les Américains et dans l'idée que le monde allait progressivement ressembler à quelque chose proche finalement de la vision européenne, plus coopératif, pacifiste, apaisé, où les rapports de force ne se traitent pas militairement, mais se traitent peut-être davantage économiquement, et en tout cas où on peut négocier. Et on arrive à un moment de l'histoire où on voit que la compétition est de retour, où les adversaires de l'Europe et des États-Unis n'hésitent pas à même attaquer des territoires de manière militaire ou font des attaques sur le plan informationnel, économique, commercial, sur tous les fronts. Et là-dessus vient se greffer maintenant une Amérique qui a l'air de changer de camp, c'est-à-dire qu'elle ne pense plus le monde comme les Européens le pensent, mais le pense davantage comme peut-être les Russes et les Chinois. Et la personne qui représente ça actuellement au-delà de Donald Trump, c'est en effet Elon Musk, qui vient comme un oligarque américain expliquer, en fait, faire de l'ingérence et donc qui va jusque chez les Européens. Non seulement il a déjà fait ça dans son pays, mais il va maintenant jusque chez les Européens en n'hésitant pas à interférer dans leurs processus électoraux, comme il vient de le faire en recevant la leader de l'AFD allemande, en soutenant les oppositions à Keir Starmer au Royaume-Uni. Donc on a maintenant une Amérique qui se comporte comme un adversaire. Et ça, c'est absolument... C'est pas seulement qu'elle n'est pas une très bonne alliée, c'est que maintenant, ça devient... Enfin, et puis Elon Musk, là, le représente. Ça devient adversarial et c'est absolument déroutant. Et je pense que là, c'est encore très tôt dans ce processus-là, parce que ces développements sont quand même récents, ceux de Elon Musk. Je ne sais pas exactement comment l'Europe va réagir. Et elle est d'ailleurs divisée. Certains dirigeants européens ont pris la parole... Emmanuel Macron, mais aussi le chancelier allemand. D'autres, comme par exemple Giorgia Meloni en Italie, ont plutôt eu tendance à défendre la version d'Elon Musk. Donc c'est un risque quasi existentiel et qui est encore récent et qui est en plein transformation.
Et une Europe finalement plus divisée que jamais sur ces questions. Est-ce qu'on peut l'imaginer, l'Europe, Laurence Nardon, être d'une certaine manière plus transactionnelle que Donald Trump et Elon Musk?
Ben, l'Union européenne, de toute manière, est un processus en construction permanente et en évolution permanente. Elle est déjà revenue en arrière sur certains de ses principes. Alors, certainement pas des principes de démocratie et de droits de l'homme, mais il y a quelques années, l'Europe a commencé à revenir en arrière sur son principe qui était vraiment sacro-saint jusqu'alors, qui était celui du libre-échange. C'est-à-dire qu'elle a commencé à poser, elle aussi, des limites et un certain protectionnisme, encore très timide, mais quand même, il y a eu un retour en arrière. Mais c'est vrai... en effet qu'en Europe, il y a aussi des gens qui pensent comme Donald Trump. Donc Célia Belin les a cités, Mélanie, Orban, etc. Il y a entre les deux rives de l'Atlantique des échanges de valeurs, des correspondances de valeurs sur le versant des droits de l'homme et de la démocratie et de la défense de ces principes. Alors ce sont les démocrates de Biden qui les portaient, ils quittent le pouvoir. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a depuis des années également des échanges intellectuels entre personnes d'extrême droite, entre penseurs d'extrême droite. Steve Bannon s'est beaucoup inspiré de Renaud Camus, etc. Donc il y a effectivement ça. Mais je voudrais juste terminer ma réponse sur un point positif, parce qu'il faut quand même rester optimiste. Il le faut absolument même. Il faut être proactivement optimiste en Europe. Les Européens, Ursula von der Leyen et les pays qui restent encore démocrates sont, dans l'Union européenne sont, restent pour l'instant majoritaires. Et l'Union européenne a beaucoup plus de pouvoir, beaucoup plus d'influence qu'elle ne s'en donne le crédit à elle-même. Quand on va aux États-Unis, moi je suis toujours frappée de voir à quel point ils savent que l'Europe est le premier marché des consommateurs, que l'Europe pose des standards, pose des normes, notamment sur le numérique. Et que nous avons avancé énormément avec la guerre en Ukraine en termes de ce qu'on s'autorise à faire. Il faut continuer.
Alors je me tourne vers Stephen Dreyfus. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit, Stephen Dreyfus?
Et ouais, peut-être aussi. Juste avec un bémol, parce qu'on constate de ce côté-ci qu'au sein de l'Europe, il y a un vide de pouvoir important en France et en Allemagne. Et donc, pendant la campagne, le seul chef européen cité par Donald Trump comme admirateur de Donald Trump, c'était Viktor Orban, qui était exceptionnel parce qu'aucun Américain ne sait qui c'est Viktor Orban. Mais dans ce vide, comme dans tout vide de pouvoir, il arrive des interférences, notamment de Elon Musk. On a lu aujourd'hui que c'est Elon Musk qui a négocié la libération de cet otage italien en Iran, par le biais de son amitié avec Giorgia Meloni, alors qui devient, elle, à notre sens, une force politique extrêmement importante en Europe, alors qu'avant, c'était le couple franco-allemand qui dominait. Et donc, pour nous et pour les Américains en général, qui ne sont pas très connaisseurs en matière internationale, l'Union européenne est plutôt difficile à comprendre parce que ça ressemble à notre Union fédérale, mais pas vraiment. Et donc, on a tendance à traiter avec des pays et pas avec l'Union. Mais la seule chose que je constate pour des rapports entre la politique de Trump et la politique, par exemple, française, c'est le fait que Trump veut que l'Europe prenne la responsabilité financière et aussi politique de sa propre défense et qu'elle ne reste pas sous le parapluie américain aux dépens des Américains. Et donc là, je crois que Emmanuel Macron avait lui aussi prôné cette idée d'une indépendance de défense de l'Europe. Faut-il encore qu'on trouve des sous pour le payer? C'est ça la question.
Autonomie stratégique. Je laisse à Axel Kroes le soin de conclure cette émission.
Un point très très important. Trump n'est pas contre l'Europe. Il est contre la Commission européenne. Et c'est un petit détail, mais le président de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, était parmi les gens les plus importants sur le plan européen, n'était pas invité à l'inauguration le 20 janvier.
Emmanuel Macron non plus. Hein,
mais et donc, je dirais qu'il est transactionnel et surtout Musk. On n'a pas parlé beaucoup de Musk. Mais Musk est la personne qui vise la Commission comme un danger, surtout pour toutes ses affaires en Europe. Donc, l'Europe, pour lui, c'est les individus. Il veut traiter avec l'Italie, avec l'Hongrie et l'Autriche, les trois pays qui vont être dominés par un gouvernement extrême droite, mais il va être obligé de faire face à la Commission finalement, et je crois, comme un bon homme d'affaires, il va accepter de négocier avec la Commission pour tout ce qu'il est commerce international.
Et on n'a pas parlé de la Chine et cette question, est-ce qu'il y aura un sommet Xi Jinping-Donald Trump en 2025? Merci à chacun pour votre participation, les éléments d'éclairage de cette émission. Stephen Dreyfus, vous étiez avec nous au téléphone depuis les États-Unis, vous êtes avocat américain, ancien procureur
procureur à New York. En studio avec moi, Célia Belin, directrice du bureau parisien de l'ECFR, l'experte des questions américaines et transatlantiques, Laurence Nardon, responsable du programme Amérique de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, et également Axel Kroos, ancien rédacteur en chef de l'International Herald Tribune. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Mathias Golchani à la réalisation et Cécile Lavolo. Vous êtes bien sur RFI, place au Journal Afrique.